Chapitre 21. Vendredi 11 décembre, le soir. Jonalina remonte Valhalla Wegen à pleine vitesse et passe devant le stade où se sont tenus les Jeux Olympiques d'été de 1912. Il change de voie, double une grosse Mercedes sur la gauche et voit la façade en briques rouges de l'hôpital Sophia Emmett défiler entre les arbres. Les roues passent bruyamment sur une grande plaque en métal. Il accélère pour dépasser un bus bleu sur le point de quitter son arrêt. Furieux, le chauffeur klaxonne longuement tandis que Yona se rabat. L'eau d'une flaque grise éclabousse les voitures garées devant l'Institut Royal de Technologie. Yona grille un feu rouge, puis un autre. Il traverse Uppsala Wegen à presque 180 km/h avant de s'enfoncer brusquement sous l'autoroute et de ressortir devant Karolinska. Il se gare près de l'entrée principale et voit les gyrophares encore allumés de plusieurs voitures balayer tels des battements d'ailes infernaux la façade de briques marron de l'hôpital. Un groupe de journalistes entoure quelques infirmières. Elles grelottent devant l'entrée principale, le visage terrorisé. Quelques-unes pleurent ouvertement devant les caméras. Yona essaye d'entrer, mais se fait immédiatement refouler par un jeune policier surexcité en pleine montée d'adrénaline. « Dégagez d'ici !» dit le policier qui le bouscule. Yona croise ses yeux bleu clair inexpressifs. Il écarte la main du policier de sa poitrine et dit calmement « Rikskrim ». Le regard du policier se fait méfiant. « Carte de police, s'il vous plaît. »«
Yona, mène-toi par ici !»
Carlos Eliasson, chef de la Rikskrim, lui fait signe de venir dans la lumière jaune pâle de l'accueil. Par la vitre, il voit Sunesson assis sur un banc, en pleurs, le visage crispé. Un collègue plus jeune s'installe à ses côtés et passe un bras autour de ses épaules. Yona sort sa carte professionnelle et le policier s'écarte à contre-cœur. Une grande partie de l'entrée est interdite d'accès par du ruban signalétique. À l'extérieur, les appareils photos des journalistes mitraillent et les vitres scintillent pendant qu'à l'intérieur, les techniciens de la police scientifique photographient les lieux. Carlos mène les opérations, à la fois sur le plan stratégique et tactique. Il donne de rapides instructions aux responsables de la gestion du lieu du crime et se tourne ensuite vers Yona.
« Vous l'avez eu ?» demande Yona.
« Des témoins disent qu'il est sorti en s'appuyant sur un déambulateur. » dit Carlos d'une voix manifestement tendue. « On l'a retrouvé en bas, près de l'arrêt de bus. »
Carlos regarde son carnet de notes.
« Deux bus ont quitté la zone, plus 7 taxis et minibus hospitaliers. Probablement une dizaine de voitures privées et seulement une ambulance. Vous avez bloqué les sorties ? C'est déjà trop tard. »
Il fait signe à un policier en uniforme de venir.
« Les bus ont été localisés, mais ça n'a rien donné, » dit-il.
« Les taxis ?» demande Carlos.
« Taxi Stockholm et taxi courir, c'est fait, mais... »
Le policier esquisse un geste vague en l'air comme s'il ne se souvenait plus de ce qu'il voulait dire.
« Est-ce que tu as contacté Eric Maria Bark ?» demande Yona.
« Nous lui avons téléphoné immédiatement. Il n'a pas répondu, mais nous essayons de le joindre.
« Il lui faut une protection. »«
Roll !» crie Carlos. « Tu es arrivé à joindre Bark ?»«
Je viens de téléphoner !» répond Roland Svensson.
« Réessaye !» dit Yona. « Je dois parler avec Omar au central !» dit Carlos en regardant autour de lui. « On lance une alerte sur l'ensemble du territoire. »«
Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?»«
Reste ici, regarde si j'ai raté quelque chose !»
dit Carlos en hélant Michael Werner, un des techniciens de la brigade criminelle.
« Fais un rapport de ce que vous avez trouvé à l'inspecteur Lina, » ordonne Carlos.
Werner regarde Yona d'un air froid et dit d'une voix nasale
« Une infirmière morte. Plusieurs témoins ont vu le suspect sortir à l'aide d'un déambulateur. »«
Fais-moi voir, » dit Yona.
Il monte par l'escalier de secours, l'examen des ascenseurs et de la cage n'étant pas encore terminé. Yona observe les traces rouges laissées par les pieds nus de Joseph Eck en direction de la sortie. Il règne une odeur d'électricité et de mort. Une empreinte de main sanglante sur le mur, près de l'endroit où se trouvait le chariot de repas, indique qu'il a trébuché ou a été obligé de s'appuyer. Sur le panneau métallique de la porte d'ascenseur, Yona voit du sang et quelque chose qui ressemble à l'empreinte huileuse d'un front et d'un bout de nez.
Il remonte encore le couloir et s'arrête dans l'encadrement de la porte, à l'entrée de la chambre où il a lui-même eu un entretien avec Joseph quelques heures plus tôt. Une mare de sang presque noir s'étale autour d'un corps par terre.
« C'était une infirmière, » dit Werner sur un ton laconique. « Anne-Catherine Eriksson. »
Yona voit les cheveux de la défunte, blonds comme les blés, ses yeux vitreux. Sa tenue d'infirmière est remontée sur ses hanches. On dirait que le tueur a tenté de relever sa blouse, pense-t-il.
L'arme du crime est vraisemblablement un scalpel, dit Werner.
Yona grommelle quelque chose, sort son téléphone et appelle la maison d'arrêt de Kronoberg. Une voix d'homme endormi répond quelque chose que Yona ne saisit pas.
Yona Lina à l'appareil. J'aimerais savoir si Evelyn Eck est encore chez vous.
Pardon ?
Yona répète d'une voix résolue.
Est-ce qu'Evelyn Eck est toujours incarcérée chez vous ?
Il faudra voir ça avec l'officier de garde,
répond la voix d'un ton irrité.
Vous pouvez me le passer, s'il vous plaît ?
Un moment,
dit l'homme en posant le téléphone. Yona l'entend s'éloigner. Une porte grince. Il perçoit un échange suivi d'un claquement. Il regarde l'heure. Il est à l'hôpital depuis 10 minutes déjà. Yona prend la direction des escaliers et descend vers l'entrée principale, le téléphone collé à l'oreille.
« Yann Persson ?»
dit une voix affable.
« Yona Lina de la Rikskrim. J'aimerais avoir des nouvelles d'Evelyn Eck. »«
Evelyn Eck ?»
demande Yann Persson.
« Attendez voir. Oui, nous l'avons relâchée. Ça n'a pas été une mince affaire. Elle refusait de partir. Elle voulait rester en prison. »
« Vous l'avez libérée ?»«
Non, non, le procureur était là. Elle est dans... »
Yona entend Yann Persson feuilleter un classeur.
« Elle est dans un de nos appartements protégés. »«
Très bien, » dit-il. « Postez quelques hommes devant sa porte, vous m'entendez ?»«
On n'est pas stupide, »
dit Yann Persson d'un ton vexé. Yona raccroche, rejoint Carlos qui est assis sur une chaise, un ordinateur sur les genoux. Une femme se tient à côté de lui et pointe l'écran du doigt. Omar du Central répète le nom de code Echo dans la radio. C'est le mot qui sert à désigner l'intervention des brigades canines. Yona se dit que, à ce stade, ils ont dû localiser la plupart des voitures, sans résultat. Yona fait signe à Carlos sans réussir à capter son attention, décide de laisser tomber et sort par l'une des petites portes vitrées. Il fait noir et l'air est froid. Le déambulateur se trouve à l'arrêt de bus désert. Yona regarde autour de lui. Il fait abstraction des gens de l'autre côté des barrières qui observent le travail de la police. Il fait abstraction du flot des gyrophares et du va-et-vient agité des policiers. Il fait abstraction des flashs des journalistes et balaie du regard le parking, les façades obscures et les couloirs reliant les différents immeubles du complexe de l'hôpital. Il commence à marcher, accélère la cadence, enjambe les rubans qui délimitent la zone, se fraye un chemin à travers le groupe de curieux et regarde en direction du cimetière Nora. Il continue jusqu'à la rue de l'église Solna, longe la clôture et tente de distinguer quelque chose parmi les silhouettes noires des arbres et des pierres tombales. Un réseau de chemins plus ou moins éclairés s'étale sur une zone d'environ 60 hectares, composée de parcelles où l'on répand les cendres des défunts, de zones plantées, d'un crématorium et de 30 000 tombes. Yona dépasse la loge près de la grille d'entrée, presse le pas, regarde en direction de l'obélisque d'Alfred Nobel et passe devant l'énorme crypte. Subitement, le silence se fait. Le vacarme autour de l'hôpital s'estompe. Le vent murmure dans les branches nues des arbres et les pas de Yona résonnent légèrement entre les pierres tombales et les croix. Un lourd véhicule gronde sur l'autoroute au loin. Les feuilles sèches frémissent sous un buisson. Ça et là, des bougies brillent dans leurs lampions embués. Yona se dirige vers l'extrémité est du cimetière, la partie qui donne sur la bretelle d'autoroute, et voit soudain quelqu'un bouger dans le noir entre les hautes pierres tombales, peut-être à 400 mètres. Il s'arrête net et tente de mieux voir. L'ombre avance courbée, la démarche heurtée. Yona se met à courir entre les stèles funéraires et les massifs, entre les flammes vacillantes et les anges en pierre. Il voit la frêle silhouette qui presse le pas sur l'herbe givrée entre les arbres. Les habits blancs flottent autour d'elle.
« Joseph !»
crie Yona.
« Arrête !»
Le garçon disparaît derrière un imposant caveau fermé par une grille en fer forgé et au gravier bien ratissé. Yona sort son arme, enlève rapidement le cran de sécurité, court latéralement, aperçoit le garçon, lui crie d'arrêter et vise sa cuisse droite. Soudain, une vieille femme bouche la trajectoire. Elle était restée penchée sur une tombe et vient de se redresser. Son visage se trouve en plein milieu de la ligne de mire. La peur prend Yona à l'estomac. Yosef disparaît derrière une haie de cyprès. Yona baisse son arme et se lance à sa poursuite. Il entend la femme se lamenter. Elle voulait simplement allumer une bougie sur la tombe d'Ingrid Bergman. Sans la regarder, il lui crie qu'il s'agit d'une affaire de police. Il sonde l'obscurité du regard. Yosef a disparu entre les arbres et les pierres. Les rares réverbères n'éclairent que par endroits un banc vert ou quelques mètres d'une allée gravillonnée. Yona sort son téléphone, compose le numéro du central et demande des renforts immédiats. La situation est dangereuse, il a besoin de toute une unité, au moins 5 équipes et un hélicoptère. Il se précipite de biais en haut d'un talus, saute par-dessus une clôture basse et s'arrête. Des aboiements résonnent au loin. Plus près, des gravillons crissent et Yona se met à courir dans la direction du bruit. Il voit quelqu'un avancer à 4 pattes entre les tombes, le suit du regard, tente de s'approcher, de trouver un axe de tir au cas où il arriverait à identifier l'individu. Des oiseaux noirs s'envolent. Une poubelle se renverse. Tout à coup, il voit Yosef avancer rapidement, accroupi, derrière une haie brune couverte de givre. Yona glisse, dégringole en bas d'une pente et heurte des arrosoirs et des vases coniques. Lorsqu'il se relève, il ne voit plus Yosef. Il sent son pouls battre dans ses tempes. Il a le dos écorché. Ses mains sont froides et engourdies. Il traverse l'allée et regarde autour de lui. Une voiture à l'enseigne de la ville de Stockholm apparaît au loin, derrière le pavillon du gardien. Elle fait quelques tours lentement. Les feux arrière disparaissent et la lumière des phares volette sur les arbres, illuminant soudain Yosef. Il se tient debout sur l'étroit chemin. Il chancelle un peu. Sa tête penche lourdement en avant, il fait quelques pas en boitant. Yona court aussi vite qu'il peut. La voiture s'arrête, la portière s'ouvre et un homme barbu s'en extrait.
« Police !»
crie Yona. Mais ils ne l'entendent pas. Ils tirent en l'air et l'homme à la barbe regarde dans sa direction. Yosef s'approche de l'homme, le scalpel à la main. Tout va se jouer en quelques secondes. Il n'y a aucun moyen d'arriver à temps. Yona prend appui sur une pierre tombale. La distance est de plus de 300 mètres, 6 fois la distance à laquelle il tire à l'entraînement. L'horizon vacille devant ses yeux. La visibilité est mauvaise. Il cligne des yeux et fixe son regard. La silhouette grise se rétrécit et s'assombrit. La branche d'un arbre passe encore et encore dans sa ligne de mire. L'homme à la barbe s'est retourné pour faire face à Yosef et recule d'un pas. Yona s'efforce de ne pas dévier de sa cible et appuie sur la détente. Le coup part et le recul se répercute dans son coude et son épaule. Le jet de poudre brûle sa main transie. La balle disparaît entre les arbres. L'écho de la détonation s'estompe. Yona vise de nouveau et voit Yosef poignarder l'homme à la barbe dans le ventre. Le sang jaillit. Yona tire. La balle cingle les vêtements de Yosef. Il vacille, lâche la lame, tâte son dos, s'avance et grimpe dans la voiture. Yona se lance à ses trousses, mais Yosef a déjà réussi à démarrer la voiture. Il écrase les jambes de l'homme à la barbe et appuie sur la pédale d'accélérateur. Quand Yona comprend qu'il n'aura pas le temps d'atteindre la route, il s'arrête et vise le pneu avant, tire et le touche. La voiture zigzague, mais poursuit sa route, accélère, prend la direction de la bretelle d'autoroute et disparaît. Yona range son arme, sort son téléphone et fait son rapport au central. Il demande à parler à Omar et répète qu'il a besoin d'un hélicoptère. L'homme à la barbe est toujours en vie. Un flot de sang noir s'écoule de sa plaie et suinte entre ses doigts. Ses deux jambes semblent cassées.
« Ce n'était qu'un gamin !» répète-t-il choqué. « Ce n'était qu'un gamin !»«
L'ambulance est en route !» dit Yona. Enfin, il entend le battement des pales d'un hélicoptère au-dessus du cimetière. Il est déjà tard quand Yona soulève le combiné du téléphone posé sur son bureau. Il compose le numéro de Disa et attend qu'elle décroche.
« Laisse-moi tranquille !»
dit-elle en articulant à peine. « Tu dormais ?»«
Bien sûr que je dormais.
Il y a un court silence. Le repas était bon ?
Oui.
Tu as compris que j'étais obligé de...
Il se tait, l'entend bâiller et se redresser dans le lit.
Tu vas bien ?
Demande-t-elle. Yona regarde ses mains. Il les a lavées méticuleusement, mais croit sentir encore une vague odeur de sang sur ses doigts. Il s'était agenouillé et avait maintenu fermée la plus grande des plaies abdominales de l'homme à qui Joseph Heck avait volé la voiture. Le blessé était demeuré parfaitement conscient tout du long. Il avait parlé avec effervescence et presque enthousiasme de son fils qui venait de passer son bac et qui, pour la première fois, allait partir seul en Turquie voir sa grand-mère et son grand-père. L'homme avait regardé Yona, vu ses mains sur son ventre et remarqué d'un air stupéfait qu'il ne souffrait pas du tout.
« C'est bizarre, hein ?» avait-il dit en posant sur Yona le regard pur et brillant d'un enfant.
Yona avait essayé de parler calmement. Il lui avait expliqué que les endorphines endormaient pour l'instant la douleur, que le corps, en état de choc, avait choisi de préserver son système nerveux de toute nouvelle agression. L'homme s'était tu, puis avait demandé doucement
« C'est ça, mourir ?»
Il avait presque essayé de sourire à Yona.
« Ça ne fait pas mal du tout. »
Yona avait ouvert la bouche pour répondre, mais au même moment, l'ambulance était arrivée, et il avait senti quelqu'un enlever délicatement ses mains de l'abdomen de l'homme. On l'avait conduit quelques mètres plus loin, tandis que les ambulanciers déposaient la victime sur une civière.
« Yona ?»
demande Disa de nouveau.
« Comment ça va ?»«
Ça va, » dit-il.
Il l'entend bouger. On dirait qu'elle boit de l'eau.
« Tu veux une nouvelle chance ?»
demande-t-elle ensuite.
« Je ne demande que ça. »«
En dépit du fait que tu te moques de moi comme d'une guigne ?»«
Tu sais que ce n'est pas vrai, » répond-il brusquement, conscient de l'immense fatigue dans sa voix.
« Excuse-moi, »
dit Disa.
« Je suis contente de savoir que tu vas bien. »
Il raccroche. Yona reste immobile un instant. Il écoute le silence assourdissant du commissariat, puis il se lève, sort son arme de l'étui suspendu derrière la porte, la démonte, et se met à en nettoyer et graisser chaque pièce. Il remonte ensuite le pistolet et le range dans l'armurerie. L'odeur de sang a disparu. Ses mains sont désormais imprégnées d'une forte odeur de graisse d'entretien. Il s'assied et rédige un rapport à Peter Neslund, son supérieur direct, pour expliquer et justifier l'usage de son arme.